France Inter.
Il est 13h sur Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. La planète, à l'heure du pétrole cher, les pays qui ne produisent pas cherchent des solutions pour limiter les hausses. Bientôt le plafonnement des prix en Corée du Sud, nous y serons dans un instant. Pas de mesure en France, nous verrons pourquoi. Et nous nous demanderons si la transition énergétique nous met désormais à l'abri des secousses d'un éventuel choc pétrolier lié à la guerre. À suivre encore, essence toujours, Renault qui garde sa stratégie et va renoncer au moteur 100% thermique en 2030. Le Rassemblement National qui a toujours autant de mal à se défaire de ses candidats brebis galeuses à quelques jours des municipales. De rares consultations gynéco sans rendez-vous dans la Creuse et des patientes qui n'en ont plus vu de médecin depuis plusieurs années. Et puis la page d'un manuscrit, bonjour Victor Vasseur.
Bonjour.
Retrouvé par hasard.
Oui, c'est l'un des ouvrages antiques les plus célèbres du monde, le manuscrit d'Archimède. Sur cette page perdue depuis un siècle, on y voit des figures géométriques. Elle a été retrouvée à Blois.
Vous allez nous raconter cette histoire dans une vingtaine de minutes. À partir de 13h30, un livre qui va contre une idée dominante. Son titre, « La guerre civile n'aura pas lieu » pour en finir avec la vision d'un pays déchiré. Non, la France n'est pas un pays fracturé, expliquent ses auteurs, qui sont nos invités. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France. Une proposition qui revient souvent dans les programmes pour les municipales. Recruter un garde champêtre, nous dira Cyril Petit du journal Ouest France. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. Le styliste Jean-Charles de Castelbajac demande les Allemands de Kraftwerk.
Elle a ce rythme froid et déterminé qui fait penser à la démarche des mannequins sur les podiums, mais aussi à une société qui se robotise sous le joug de la machine en quelque sorte.
Jean-Charles de Castelbajac, si vous n'aviez pas la réponse, il y a quelques minutes. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Pour faire la paix, il faut être deux. Soi-même et le voisin d'en face. La citation est d'Aristide Briand, le Français qui tenta la paix avec l'Allemagne après la Grande Guerre, c'était il y a un siècle. Là, ils sont trois. Et si Donald Trump, l'Américain, a dit hier soir, je le cite, que le conflit était bientôt fini, son allié, l'Israélien Benjamin Netanyahou, assure que son pays n'en a pas fini avec le pouvoir iranien, quand les Iraniens répondent qu'ils décideront eux-mêmes de la fin de la guerre. La phrase de Trump a tout de même réussi à faire légèrement baisser les cours du pétrole ces dernières heures et à rassurer les marchés, même si ce matin, l'Iran promet de bloquer les exportations de pétrole de la région jusqu'à nouvel ordre. Alors les conséquences sont mondiales. Avant de parler de la France dans une minute, voyons ce qui se passe en Asie. Rationnement de l'essence au Bangladesh, l'armée est déployée, pénurie au Vietnam, circulation restreinte en Birmanie, télétravail encouragé en Thaïlande et en Corée du Sud, des prix qui seront plafonnés d'ici la fin de la semaine. Reportage à la pompe à Séoul, Célio Fioretti.
2000 won le litre environ, soit près d'1,20€, du jamais vu dans les stations-service sud-coréennes. De quoi faire la moue devant le compteur, c'est le cas de Monsieur Kim, livreur. Il est venu faire le plein de son scooter, son outil de travail.
Pour nous qui dépendons de l'essence pour travailler, payer le plein tous les jours, ça s'accumule pour le porte-monnaie. Pour l'instant, ça va encore, mais sur la durée, ça va devenir très dur pour nous.
Une montée des prix qui suscite l'incompréhension pour M. Park, venu faire le plein de sa Mercedes.
C'est la première fois que je vois des prix comme ça. Mais bon, même en cas de guerre, il y a des réserves de pétrole, non? Les prix ne devraient pas augmenter aussi brusquement. Là, on dirait qu'ils augmentent juste à cause de la guerre. J'ai l'impression que c'est un peu exagéré.
Un constat partagé par le président sud-coréen Lee Jae-myung, qui avait déjà appelé les pompistes à ne pas augmenter leurs tarifs. Désormais, un prix plafond va être imposé par le gouvernement dans le courant de la semaine pour limiter l'impact de la crise pétrolière sur l'économie et le porte-monnaie des Sud-Coréens. France Inter à Séoul, c'est Le Fioretti.
Alors, en France, pour l'instant, seule mesure prise, des contrôles dans les stations-service pour vérifier que les prix annoncés correspondent bien au prix pratiqué. Sur 231 stations contrôlées, 6% étaient en tort et seront sanctionnés par des amendes, a dit ce matin le ministre du Commerce. Mais les oppositions demandent d'aller plus loin. Baisse des taxes, plafonnement des prix, voilà les propositions. Bonjour Julien Nenny.
Bonjour Jérôme.
Julien, vous suivez le sommet international sur le nucléaire qui se tient depuis ce matin à Paris. Et à ce stade, le gouvernement n'envisage pas d'autres mesures.
Non, pour le moment, seule certitude, le gouvernement balaye les propositions du RN et de LFI que vous venez d'évoquer, des formules magiques, a dénoncé ce matin le ministre de l'économie Roland Lescure.
Pour que le prix à la pompe baisse, il n'y a pas de recette domestique, il faut stabiliser le marché.
Pour lui, ça passe par débloquer le détroit d'Ormuz et par utiliser une partie de nos réserves stratégiques de pétrole. Les ministres de l'énergie du G7 doivent justement se réunir à 13h45 pour en discuter. Mais est-ce que pour autant, le gouvernement exclut totalement d'aider les Français les plus exposés, par exemple via un nouveau chèque énergie? Il est trop tôt pour avoir ce débat, esquive ce matin la porte-parole Maud Bréjon. Traduction, si les prix à la pompe ne baissent pas dans les prochains jours, le gouvernement n'exclut pas de faire un geste malgré ses lourdes contraintes budgétaires et croise donc les doigts pour ne pas avoir à en arriver là.
Donc pas de geste pour l'instant, mais Emmanuel Macron en profite pour vanter le choix du tout nucléaire fait par la France il y a 50 ans.
Oui, la menace d'un nouveau choc pétrolier semble donner raison, c'est vrai, aux pays qui ont fait le choix de l'électrique et donc du nucléaire, la France au premier chef. Le président ne s'est donc pas privé de le rappeler ce matin en ouverture du sommet.
On le voit dans le contexte géopolitique qui est le nôtre. Combien, lorsqu'on est trop dépendant des hydrocarbures, cela peut devenir un instrument de pression, voire de déstabilisation. Et donc, le nucléaire permet de répondre à cette équation.
Mais Emmanuel Macron oublie de rappeler une autre vérité. Pendant tout son premier mandat, il n'était pas un aussi fervent défenseur du nucléaire. Il avait fallu attendre 2022 et un discours à Belfort pour qu'il s'y convertisse. 6 nouveaux EPR en construction et des centrales existantes prolongées, loin de ses engagements de 2017 et de la fermeture de Fessenheim.
Et le choix du tout nucléaire, c'était 74 en France, après déjà un choc pétrolier, après la guerre du Kippour. Merci Julien Nenni, avec les moyens techniques de Nicolas Mathias. Alors il y a le nucléaire, et puis il y a les efforts en engagé depuis quelques années pour décarboner notre économie, c'est-à-dire consommer moins de pétrole, moins de gaz et moins de charbon. Bonjour Alexis Morel.
Bonjour Jérôme.
Nous sommes vraiment moins exposés aujourd'hui à ces chocs ?
Alors, tout dépend de quoi on parle. Pour nos usages électriques, oui, vous le disiez, rien à voir avec les crises pétrolières des années 70. À l'époque, le programme nucléaire n'était pas encore entré en fonction. L'essentiel de l'électricité était produite à base de fioul. Aujourd'hui, 90% de notre production électrique est décarbonée. Deuxième facteur, équivalent pour le monde entier, en 50 ans, nos économies ont su produire plus efficacement avec moins de matières premières, comme nous l'explique Patrice Geoffron, directeur du Centre géopolitique de l'énergie à Paris Dauphine.
Pour produire une unité de PIB, c'est-à-dire pour produire, disons, un euro ou un dollar de richesse, on consomme beaucoup moins de pétrole qu'à l'époque. Ça a été diminué d'environ les deux tiers. Or, ça s'explique par le fait qu'on a gagné en efficacité énergétique. Ça s'explique par le fait qu'on a, par exemple, des véhicules aujourd'hui plus efficaces. Et les procédés industriels ont considérablement été améliorés.
Alors, on a donc fait un petit bout du chemin, mais on est évidemment très, très loin de sortir de cette dépendance. Car si notre électricité, je le disais, est décarbonée, elle ne représente qu'un gros quart de nos usages en France, contre encore 58% pour les énergies fossiles. C'est tout l'enjeu de la stratégie énergétique dévoilée par le gouvernement le mois dernier. Augmenter la part d'électricité. Alors ça veut dire beaucoup plus de voitures électriques, de fours électriques dans les usines, de chauffage électrique dans les maisons. La marche est très haute. Reste à savoir si la crise que l'on vit provoquera un déclic pour décarboner plus vite et plus fort.
Et on reviendra à ce choix de l'électrique plutôt que du thermique, fait par Renault notamment dans quelques minutes. Merci Alexis Morel. Avant cela, les dernières informations sur cette guerre donc au Moyen-Orient. Il y a trois quarts d'heure, plusieurs fortes explosions entendues à Doha, au Qatar, donc le Qatar toujours visé. Au Liban, les bombardements israéliens depuis 10 jours ont contraint 660 000 personnes à quitter leur domicile. 100 000 déplacés rien que ces dernières 24 heures. La région de Tyr, au sud du Liban, a été touchée ce matin. Et puis Israël affirme aussi avoir lancé une nouvelle vague de frappes sur la capitale iranienne Téhéran ce matin. Et ce qu'on comprend donc, Alice Froussard, vous êtes en Israël pour Inter, c'est que Benjamin Netanyahou veut poursuivre cette guerre.
C'est ce qu'a encore répété Benjamin Netanyahou hier soir lors d'une visite dans un centre d'urgence du ministère de la Santé. Notre aspiration est d'amener le peuple iranien à se libérer du joug de la tyrannie. Il le précise, le résultat dépend aussi du peuple iranien, mais menace à nouveau. Nous n'en avons pas encore fini. Pour Israël, la position reste inchangée. Benjamin Netanyahou jure de poursuivre coûte que coûte les attaques contre l'Iran, notamment parce qu'Israël est à portée de missiles. Et puis le premier ministre israélien en est conscient. Pour lui, c'est aussi une manière de refaçonner son héritage politique. Une partie des médias israéliens, d'habitude très critiques à son égard sur le plan politique, sont, depuis le début de cette guerre, souvent euphoriques face aux opérations militaires. C'est donc une manière de prendre sa revanche sur le 7 octobre et de s'assurer de l'unité du peuple israélien autour de sa personne. La chose qu'Israël redoute, en tout cas, il est clair, serait un retour à la table des négociations et un nouvel accord sur le nucléaire iranien qui laisserait en place le régime des Mollahs.
Alice Froussard, l'une de nos journalistes dans la région. Samedi dernier, en Iran, dans le sud du pays, à Minab, une école a été touchée par un missile. L'UNICEF, l'agence de l'ONU pour les enfants, rapportait en fin de semaine dernière un bilan de 168 élèves tués, dont une majorité d'écolières âgées de 7 à 12 ans. Alors depuis, les Iraniens et les Américains s'accusent mutuellement de la responsabilité de ce tir. Et on a un nouvel élément aujourd'hui. Bonjour Armel Balogog.
Bonjour.
Vous appartenez à l'agence de vérification de Radio France. Armel, une vidéo publiée hier et authentifiée permet de dire qu'un autre missile... un missile américain est tombé près de cette école.
Mais vraiment, à quelques mètres, une vidéo de ce missile américain a été publiée par le média d'État iranien Mer News. Nous avons pu l'authentifier, vous l'avez dit, la géolocaliser. Notre enquête permet d'affirmer que ce missile Tomahawk, très reconnaissable à ses ailerons, est tombé sur l'un des bâtiments du corps de la marine des gardiens de la Révolution qui ont été détruits ce jour-là dans la ville de Minab, des bâtiments accolés à l'école bombardée.
On apprend donc qu'un missile américain est tombé près de l'école. Ça ne veut pas dire que les États-Unis ont tiré celui qui a détruit l'école. C'est bien ça. Que répondent les Américains ?
Alors, tant qu'il y a des incertitudes, Donald Trump peut encore mettre en doute la responsabilité des États-Unis et accuser l'Iran. Hier, lors d'une conférence de presse, le président américain a rappelé qu'une enquête était ouverte aux États-Unis sur le bombardement de cette école, mais il a aussi affirmé, sans apporter aucune preuve, que l'Iran utilisait des missiles Tomahawk et que donc ce missile américain qui a été filmé aurait très bien pu avoir été lancé par Téhéran. Sauf qu'il est très improbable que l'Iran utilise des missiles fabriqués aux États-Unis, l'Iran étant sous embargo américain depuis des décennies et Téhéran qui fabrique d'ailleurs et qui utilise ses propres missiles.
Armel Balogog pour ces informations. Et puis je vous ai parlé hier ici même de ces joueuses de football iraniennes qui avaient osé défier le régime des Mollahs en ne chantant pas leur hymne national avant un match en Australie. Elles devaient rentrer chez elles hier, on craignait des représailles. Eh bien on a appris hier soir que l'Australie accordait l'asile pour l'instant à 5 d'entre elles. Notre correspondant à Sydney, Grégory Pless.
Les 5 femmes concernées se sont enfuies de l'hôtel où elles étaient tenues cloîtrées et sous surveillance. Elles sont désormais sous la protection de la police fédérale australienne. Anthony Albanese, premier ministre australien, lors d'une conférence de presse.
Les Australiens ont été émus par la détresse de ces femmes courageuses. Elles sont en sécurité et chez elles ici.
Accusées de trahison par les cadres du régime il y a 8 jours pour n'avoir pas chanté l'hymne national, l'une des joueuses avait dimanche soir mimé un appel à l'aide en direction de fans attroupés autour de leur bus alors qu'elles quittaient le stade après leur dernier match. Anthony Albanese a lui fait savoir que cette offre d'asile s'étendait à toutes les joueuses de l'équipe.
Nous sommes prêts à apporter notre aide aux autres femmes de l'équipe, mais ce choix leur appartient. Nous leur disons, si vous voulez notre aide, on vous aidera.
Nul ne sait pour l'instant quand l'équipe iranienne doit quitter l'Australie, l'Australie qui a rompu ses relations diplomatiques avec Téhéran en août dernier.
Grégory Pless à Sydney pour Inter. Pour tout comprendre sur ce conflit, ne manquez pas la soirée spéciale que France Inter vous propose ce soir intitulée « La guerre qui a changé le monde ». C'est à partir de 20h50, soirée qui sera également diffusée sur France 2.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
C'est l'heure des choix pour les grands constructeurs automobiles européens. Ils sont confrontés à la concurrence des véhicules électriques chinois et ils constatent que les automobilistes ont du mal à tourner le dos au moteur essence en raison des prix de l'électrique, même si on comprend à la pompe en ce moment que les choses peuvent bouger. Bref, il y a quelques semaines, Stellantis décidait de ralentir sur la route de l'électrique. Eh bien, ce matin, Renault fait un tout autre choix. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Renault confirme qu'il va arrêter le 100% thermique dans 4 ans, 2030.
Oui, on sait que Renault avec Luca De Meo, c'était le tout électrique, le Made in France, avec son nouveau patron François Provost. C'est la diversité des moteurs et l'international pour trouver la croissance. Renault vise 50% d'électrique, toujours d'ici 2030, et 50% d'hybride sur des marchés porteurs. L'Inde, par exemple, avec le lancement d'un Renault Bridger, un mini SUV compact qui sera le game changer, comprenez, le véhicule qui doit faire gagner Renault selon son équipe dirigeante. Renault qui vise également des parts importantes au Brésil, l'Amérique latine. Là encore, marché d'avenir pour la marque aux losanges qui se sent visiblement un peu à l'étroit en Europe. Elle qui espère réaliser la moitié de ses ventes en 2030 hors du vieux continent, signe des atermoiements de Bruxelles ces derniers mois qui obligent les constructeurs à diversifier leurs plans.
Mais pour cela, Maxime, Renault doit réduire ses coûts. Comment va-t-il faire ?
Eh bien, le constructeur va même jusqu'à envisager d'expérimenter dans ses usines ces prochains mois des robots humanoïdes officiellement pour soulager les salariés, soulever les charges lourdes sur la chaîne de production. Le constructeur qui veut optimiser ses plateformes alors qu'il vise le lancement de 36 nouveaux véhicules, des voitures qui contiendront demain 30% de pièces recyclées, façon de se prémunir des aléas sur un marché automobile changeant. Renault, enfin, qui compte également doubler ses chaînes d'approvisionnement, leçon notamment ici du Covid, sa pandémie qui avait mis le secteur, on s'en souvient, sens dessus-dessous.
Précision signée Maxime Debs. Alors qu'en Allemagne, le tournant est encore plus douloureux pour le géant Volkswagen, premier constructeur automobile européen. 50 000 suppressions de postes d'ici 2030. 50 000 suppressions en Allemagne. Bonjour Sébastien Baer.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Berlin. Un bénéfice divisé par deux l'an dernier.
Oui, 6,9 milliards d'euros seulement en 2025. C'est tout simplement le pire résultat pour Volkswagen depuis 2016, année du Dieselgate. Vous savez, le scandale des moteurs truqués. Alors, la reprise des ventes sur le marché européen n'a pas suffi à enrayer la baisse mondiale. Moins 6% en Chine, où Volkswagen continue à perdre du terrain face à la montée en puissance du constructeur BYD. Moins 12% sur le marché américain, plombé par les surtaxes douanières de Donald Trump, qui ont déjà coûté au groupe 3 milliards d'euros. Parmi les 10 marques que détient Volkswagen, Audi et Porsche sont en grande difficulté. Porsche, pourtant autrefois très rentable, voit son bénéfice chuter de 90%, pénalisé par les 5 milliards d'euros qu'il a fallu investir dans la transition électrique. Plus que jamais en quête d'économie, Volkswagen avait déjà annoncé 35 000 suppressions d'emplois d'ici 2030. Ce sont finalement 50 000 postes qui vont disparaître. Cette nouvelle coupe dans les effectifs va se concentrer sans surprise sur Porsche et Audi. Avec cette restructuration, le premier constructeur européen, vous l'avez dit, espère économiser 6 milliards d'euros par an d'ici 2030.
Sébastien Baer en direct d'Allemagne pour Inter. Restons sur ces sujets de mobilité et de transport. Les centres de nos villes se sont vidés de leurs voitures ces dernières années au profit des transports en commun et des vélos. Et dans beaucoup de moyennes et de grandes villes, des systèmes de vélos partagés ont été mis en place. Mais c'est le cas également désormais dans de plus petites communes, moins de 5000 habitants, par exemple en Seine-et-Marne. La communauté de communes Gâtinais-Val-de-Loing ainsi que le département propose 20 vélos électriques en libre-service, alors c'est surtout pour la balade, comme l'a constaté à Château-Landon, Jeanne Mézia.
Sur la place du marché, 5 vélos sont prêts à rouler.
Moi, j'ai vu 2 petits jeunes les utiliser.
Jocelyne, qui se balade avec une amie, se réjouit de cette initiative qui doit permettre de mieux profiter de la ville.
Mais c'est vrai, pour les personnes qui ne connaissent pas Château-Landon, du bas, c'est magnifique. Mais pour remonter, c'est bien le vélo électrique.
Si ces deux roues sont déployées ici, c'est d'ailleurs pour encourager les touristes à les utiliser, explique la maire de Château-Landon, Valérie Lagile.
Les gens étaient en recherche de mobilité douce et d'un tourisme différent. D'autant plus qu'on a un territoire qui est très vaste. Chaque petit village a son intérêt.
À Château-Landon, ce n'est pas encore la saison touristique, donc pas facile de trouver un utilisateur. Alors je teste.
C'est le 32, c'est ça.
On débranche, ça c'est pour la selle. En route.
Et sur mon chemin, je retrouve Jocelyne et son amie.
Rebonjour mesdames.
C'est l'ancien Château-Landon là. Voilà, vous pouvez aller où vous voulez. Hein. C'est très bien ça. Allez-y.
Fin de la balade en passant par l'office de tourisme où Brigitte, derrière son bureau, a déjà vu des vacanciers partir en vadrouille.
4 Brésiliens qui logent actuellement sur Château-Landon et qui ont utilisé déjà les vélos électriques. Donc ils sont descendus un peu plus sur Soupe, ils ont pris pour à peu près une heure de balade.
Brigitte travaille également sur des itinéraires à proposer via l'application qui sert à déverrouiller les vélos afin de faire découvrir toutes les communes alentours.
Si ça vous tente, 4,50€ pour une heure de vélo. c'est l'Arlésienne avant chaque élection. Le Rassemblement national promet d'écarter tout candidat compromis par des déclarations ou des actes racistes ou antisémites. La succession de cas avait, on s'en souvient, marqué la campagne des élections législatives en 2024. Alors il y a quelques jours, Jordan Bardella, le président du parti, a dit ceci.
À partir du moment où quelqu'un rejoint le Rassemblement national et tient des propos ou des attitudes qui sont contraires à celles que nous portons, eh bien, nous le mettons à la porte.
C'était à votre micro. Bonjour Lise Rosveille.
Bonjour.
C'était dans les allées du Salon de l'Agriculture. Lise, service politique de France Inter. On constate à 5 jours du premier tour des élections municipales qu'il y a encore des candidats qui posent problème.
Des têtes de liste aux blagues racistes ou antisémites, oui, à Carpentras, Chambéry, Belfort. Un membre du mouvement royaliste l'Action française à Dunkerque. Une colistière fan du général Pétain à Amiens. La presse a comptabilisé plus d'une centaine de brebis galeuses, comme on les appelle. Et le RN a finalement désinvesti 3 têtes de liste. Les autres sont donc considérés comme tolérables. Une sélection drastique avait pourtant été mise en place avec entretiens individuels et algorithmes chargés de scanner les réseaux sociaux. Une centaine de candidats ont été refusés. Des députés se sont même plaints, mais ça n'a pas suffi. Impossible, se défend le directeur de campagne Julien Sanchez, de vérifier les 20 000 colistiers.
Pourquoi le parti n'arrive-t-il pas à mieux sélectionner ses candidats ?
Parce que derrière la normalisation du parti, le fond idéologique, lui, n'a pas changé, comme explique Safia Dahani, politiste et sociologue spécialiste du RN.
Les bastions de recrutement du RN, que ce soit les électeurs ou même les militants locaux, sont politisés aussi au regard de différentes formes de racisme, qui a une très forte propension à la xénophobie, à l'ethnocentrisme. Donc tout ça, ça me paraît assez consonant en fait avec les profils de candidats qu'on peut retrouver après à des élections locales.
Alors pour se défendre, plusieurs élus RN souhaiteraient créer une cellule chargée de scanner les réseaux sociaux de leurs concurrents, persuadés d'y trouver aussi de nombreuses brebis galeuses. Mais un cadre du RN le reconnaît, il y a plus de profils problématiques chez nous.
Explication Lise Rosveille. Le candidat de la France Insoumise à Marseille, Sébastien Delogu, lui a déposé plainte après la diffusion de fausses informations visant à le discréditer sur les réseaux sociaux et sur des sites internet. Une enquête est ouverte pour soupçon d'ingérence dans les municipales. Et puis à Nice, l'homme d'affaires conservateur Pierre-Édouard Sterrin, mis en cause il y a quelques jours par le maire de Nice, Christian Estrosi, dans l'affaire de la tête de porc déposée devant le domicile du maire de la ville, donc devant son domicile, eh bien Pierre-Édouard Sterrin, ces dernières heures, réfute toute implication et il annonce son intention de déposer plainte. 2 suspects ont été mis en examen et placés en détention dans cette enquête. C'est l'une des préoccupations principales des électeurs, même si les maires n'ont pas toutes les cartes en main pour résoudre ce problème, les déserts médicaux. Ça vaut pour les généralistes, ça vaut pour les spécialistes. Ainsi, dans le département de la Creuse, il n'y a que 4 gynécologues. Alors hier, au centre hospitalier de Guéret, les femmes du département pouvaient consulter sans rendez-vous. Elles étaient donc nombreuses. Reportage sur place, Claire Checaglini.
Allez-y, je vous laisse vous installer.
C'était pour un suivi médical et il y a longtemps que je n'en avais pas eu.
Cette patiente d'une 50aine d'années n'a pas consulté de gynécologue depuis 4 ans.
Bah parce que les gynécologues en Creuse, il n'y en a pratiquement plus. Là, il faut attendre 6 mois, voire plus. Des fois, on a des petites choses et puis bon, on s'inquiète quoi.
Cette petite chose était une suspicion de cancer du col de l'utérus. Le doute a été levé grâce à un frottis, à savoir un prélèvement de cellules, qui peut être fait aussi par des sages-femmes. Ce n'est pas pour autant que cette mère de famille se fait dépister.
Bon, je reçois des lettres de relance de l'assurance maladie, mais c'est vrai que je ne prends pas le temps de le faire. Et puis, voilà.
Donc ça fait combien de temps que vous n'avez pas été chez un gynéco ?
Bah, ma fille, ma plus jeune, a 8 ans maintenant, donc voilà, ça fait 8 ans.
Une attente beaucoup trop importante au regard des préconisations, à savoir une mammographie à partir de 50 ans tous les 2 ans et un frottis tous les 3 à 5 ans à partir de 25 ans.
Un frottis, c'est vrai que c'est pas un moment, c'est pas l'éclate.
Valérie Picot, sage-femme.
Mais au moins, on peut dépister le papillomavirus, on peut dépister des cellules anormales et on peut les traiter avant qu'elles dégénèrent.
Et pour accomplir ces gestes, ce sont essentiellement des femmes qui ont été choisies pour les faire. Manière de s'adresser notamment aux patientes qui ont abandonné leur suivi après une mauvaise expérience lors d'une consultation.
Reportage à Guéret, ici Creuse, de Claire Checaglini. La santé qui passe par un bon sommeil. Et en la matière, les choses se sont dégradées pour les Français l'an dernier. C'est l'Institut National du Sommeil qui nous livre ce matin son baromètre annuel. Bonjour Nina Richard.
Bonjour.
Vous l'avez épluché pour nous. Les Français en moyenne, ont dormi l'an dernier un quart d'heure de moins qu'en 2024. Et la cause principale, ce ne sont pas les écrans, c'est le bruit.
Oui, imaginez ces voix des gens qui passent dans la rue, des voisins du dessus trop bruyants, ou encore le son d'une télé restée allumée. Un tiers des Français se disent gênés et réveillés par ces sons au cours de la nuit. C'est le constat d'Armel Rancillac, neuroscientifique INSERM au Collège de France.
Beaucoup dorment avec un téléphone portable allumé près d'eux, ce qui va envoyer des notifications et induire de l'hypersomnolence le lendemain. On n'a pas conscience d'être réveillé par les vibrations sonores ou les notifications visuelles. Cette lumière et ce son vont induire en moyenne 1,8 réveils par nuit.
Et parmi les profils les plus impactés, on retrouve les jeunes adultes, les femmes et les personnes qui vivent en appartement. Des populations dont le sommeil est aussi très perturbé par les changements de température. Le facteur chaleur concerne 80% des Français.
On s'est aperçu qu'au-delà de 21 degrés dans la chambre, ça va vraiment impacter aussi bien le sommeil lent profond que le sommeil paradoxal. Parce que le sommeil lent profond, il a besoin d'être accompagné d'une baisse de la température de notre corps. Et pendant le sommeil paradoxal, on n'a plus cette régulation de notre température interne. On est vraiment dépendant des conditions externes.
Des conditions aggravées par le changement climatique, avec des canicules de plus en plus longues et fréquentes. En 50 ans, les Français ont perdu 1 heure et demie de sommeil.
Nina Richard, il était là, à portée de main, depuis des années. Mais personne ne le savait. On parle d'un des manuscrits les plus célèbres au monde. On le doit aux scientifiques grecs de l'Antiquité. Archimède, son palimpseste, l'une de ses pages les plus célèbres, compensée perdue donc, vient d'être retrouvée par hasard au musée des Beaux-Arts de Blois, des feuillets issus de la plus ancienne copie de l'un de ses ouvrages les plus fameux. Victor Vasseur, on vous retrouve, c'est une découverte rare.
Sur l'une des faces du feuillet, page 123, on distingue des figures géométriques. Quand l'autre face est recouverte d'un dessin, un prophète entouré de deux lions, ajouté au XXe siècle. Cette découverte, on la doit à Victor Gissenberg, chercheur au CNRS, spécialiste de la pensée antique.
Il s'agit d'une écriture très professionnelle, très belle, qui contient donc des traités de géométrie très pointus. Par exemple, la page en question concerne les volumes des figures à 3 dimensions. Ça rappelle peut-être un peu le collège, mais il s'agit vraiment de démonstrations de très haut niveau mathématique.
Un ouvrage écrit au Xe siècle avec de nombreuses pages illisibles, explique Victor Gissenberg.
Quelques temps après, le texte d'Archimède a été effacé et recyclé pour produire un livre de prières. C'est ce qu'on appelle un palimpseste. On faisait ça très souvent parce que le parchemin, qui est constitué de peau animale, était un matériau relativement précieux.
Ce feuillet est arrivé à Blois après le legs d'un collectionneur dans les années 70. Conservé à Istanbul avant la Première Guerre mondiale, le manuscrit est passé par Paris avant de rejoindre les États-Unis. Prochaine étape pour le chercheur, déchiffrer le texte masqué par l'enluminure.
L'histoire du palimpseste d'Archimède et un récit signé Victor Vasseur. Deux informations qui concernent le football français. Maintenant, le FC Nantes change à nouveau d'entraîneur. C'était le deuxième de la saison. Ahmed Kantari, mais il a payé la dernière défaite face à Angers. Et donc Ahmed Kantari sort du FC Nantes. C'est a priori Vahid Halilhodžić qui est pressenti à plus de 70 ans pour le remplacer. Et puis le président du Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaïfi, lui assistera-t-il demain au 8e de finale de Ligue des Champions face à Chelsea au Parc des Princes? Rien n'est moins sûr puisqu'il est actuellement bloqué à Doha au Qatar en raison de la guerre au Moyen-Orient. 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Sophie Brilla. Puis à partir de 13h30, le livre « La guerre civile n'aura pas lieu » pour en finir avec la vision d'un pays déchiré. Ses auteurs, ils sont deux, sont nos invités. Immigration, insécurité, islam, écologie, école, travail. Ces sujets ne divisent pas les Français, selon eux. Bien au contraire, on va en parler ensemble et j'aimerais vous entendre aussi 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, notre feuilleton avec un jeune éleveur, éleveur de poules Pékin. Nous sommes dans le Maine-et-Loire. C'est une passion qui l'a saisi un peu par hasard. Il va nous raconter. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Cyril Petit, Julien Baldacchino, bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour Jérôme. Jérôme.
Cyril, où nous emmenez-vous aujourd'hui ?
Eh bien Jérôme, de Saint-Viaud en Loire-Atlantique à Touvres en Charente, en passant par Nailly dans l'Yonne, je vous parle du retour des gardes champêtres.
Et avec vous Julien, un créateur, un grand nom de la mode.
Jean-Charles de Castelbajac qui nous raconte la chanson The Model d'un grand nom de la musique électronique, le groupe Kraftwerk.
Merci à tous les deux, à tout à l'heure.
Je suis né en Palestine, une terre en larmes et en sang.
Je suis aujourd'hui moine à Bethléem. Le prieur de Bethléem, le nouveau roman de Yasmina Kadra, aux éditions Flammarion.
Ce mardi, jackpot Euromillions de près de 200 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ, montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
On peut y aller, Sonia, je suis prêt.
Un petit coup de peigne et c'est parti.
On y va.
Il y a votre fille Cécile qui passe dîner ce soir, non ? Qu'est-ce qu'on lui prépare de bon ?
Ah bah des lasagnes ! C'est son plat préféré depuis qu'elle est toute petite.
Parfait ! On passe par le marché d'abord, et ensuite, on cuisine.
Aide aux seniors, gestes du quotidien, courses repas, lien social, ménage repassage. Avec O2, faire ensemble, c'est vivre mieux chez soi. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur o2.fr.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane pour des séjours en pleine nature, par tous les temps. À découvrir sur utopia.com.
Bonjour Sophie Briat.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Et un ciel changeant aujourd'hui dans l'Est.
Des Ardennes aux Bouches-du-Rhône et la Corse, en passant par le Massif Central et le Grand Est, vous l'avez compris, toute la façade Est est vraiment sous une alternance de nuages, d'averses orageuses et de quelques éclaircies, de rares éclaircies même. Et la neige tombe à partir de 1500-1700 mètres sur les Alpes. Dans le Sud-Ouest, le ciel est un peu plus lumineux et des averses peuvent se déclencher localement, accompagnées de coups de tonnerre. Ailleurs, sur le Nord-Ouest, des Hauts-de-France au Poitou-Charentes, en passant par le Bassin Parisien et le centre Val-de-Loire, les ondées sont un peu plus rares et les éclaircies parfois belles, tandis que le ciel est plus nuageux des Pays de la Loire au Cotentin et la Bretagne est sous un ciel bien couvert, annonçant une nouvelle perturbation pluvieuse pour ce soir et la nuit prochaine.
Et des températures, alors on a dit qu'elles étaient très douces pour la saison, elles sont en légère baisse.
Oui, elles baissent, mais nous sommes toujours, selon Météo France, au-dessus de 2 à 5 degrés au-dessus des normales de saison. La fraîcheur revient en fin de semaine à partir de vendredi, et là même on va être en dessous. En tout cas, cet après-midi, il fait de 12 à 18 sur la moitié nord, 12 à Quimper, 16 à Paris, 18 à Colmar. Sur le reste du pays, de 13 à 19, 18 à Cognac, 16 à Marseille, Lyon et Toulouse et 13 degrés à Aurillac.
Merci Sophie Briat.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Et voilà un ouvrage particulièrement stimulant car il vient en contradiction avec un discours dominant en France depuis quelques années. Un discours qui décrit une France divisée, fracturée, dans laquelle les Français vivraient non pas ensemble mais côte à côte. C'est la thèse en 2019 du livre devenu best-seller du sondeur et essayiste Jérôme Fourquet intitulé « L'archipel français ». Eh bien, le livre dont nous allons parler dans les prochaines minutes en prend le contre-pied. Il s'intitule « La guerre civile n'aura pas lieu » pour en finir avec la vision d'un pays déchiré. Il est publié aux éditions Robert Laffont. Voici ses deux auteurs. Nicolas Prissette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à la Tribune Dimanche et vous avez fondé le média en ligne Fondamental qui publie des articles notamment sur l'actualité politique. Emmanuel Rivière est l'auteur également de ce livre. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue et consultant spécialiste de l'opinion. 01 45 24 7000 pour les auditeurs qui veulent poser leurs questions. Vous passez également via l'application Radio France. C'est l'onglet Réagir. Je voudrais que l'on revienne aux racines de votre réflexion. Cette expression « guerre civile » qui ne sort pas de nulle part, elle est utilisée par Emmanuel Macron à quelques jours du second tour des élections législatives de 2024. Nous sommes juste après la dissolution.
Je viens de m'en prendre une derrière la tête. On vient collectivement de s'en prendre une derrière la tête. Quand vous avez plus de 30% des gens qui votent à l'extrême droite aux européennes, pour moi, c'est beaucoup lié à ça. C'est-à-dire c'est beaucoup lié à ce sujet d'insécurité. Et le Rassemblement National et la France Insoumise, elles répondent à des vrais problèmes. Je veux dire, elle répond à des vraies colères, des vraies angoisses. Mais elle y répond mal à mes yeux, parce qu'elle y répond, en quelque sorte, en accroissant la conflictualité et la guerre civile.
Ça, c'est le 24 juin 2024, le podcast Génération Do It Yourself. À l'époque, il provoque un tollé en disant cela. Et vous, vous dites, cette expression, elle sort pas de nulle part.
Cette expression de guerre civile, en fait, elle résulte d'un climat ambiant qui s'est installé depuis plusieurs années et qui, vous l'avez très bien dit, fait croire aux Français qu'ils sont au bord de la crise de nerfs, très en colère, et y compris les uns contre les autres, et profondément divisés sur beaucoup de sujets de société ou de sujets politiques. On a enquêté avec Emmanuel sur ce phénomène et on a découvert qu'il était beaucoup construit, souvent instrumentalisé à des fins politiques et qui ne correspondait pas à ce que les Français vivent dans leur quotidien, ni à leurs aspirations les plus profondes. Donc on démontre que toutes ces thèses qui nous divisent, tout ce propos noir qui décliniste sur la France, est infondé, et on le confronte au réel, et on en tire des conclusions qui sont très différentes de l'image qui est donnée dans le débat public.
Sur le constat que dressait Jérôme Fourquet dans son livre, la fin des creusets dans lesquels les Français se retrouvaient, le service militaire, les colonies de vacances, l'Église, les grands partis politiques comme le Parti communiste, tout cela favorisait le brassage des Français et n'existe plus, disait-il. Cette analyse, elle est fausse, Emmanuel Rivière ?
Elle nous paraît très marquée par le prisme d'aller systématiquement chercher des raisons de dire qu'on n'est plus ensemble, qu'on n'est plus divisé. Bon, il y a plein de choses qui ont changé. Le paysage médiatique a changé. Donc on peut dire que les gens vont se disperser sur différents canaux. Mais au bureau, ils parlent quand même des mêmes séries. Les lendemains, des grandes rencontres sportives qui génèrent des millions de personnes. Ils se racontent aussi comment ils ont vécu le même match. Et puis regardez ce qui s'est passé au moment des Jeux Olympiques. Mais en fait, ce qui a déclenché chez nous la volonté de se livre, c'est que ce schéma, il colle pas du tout avec notre expérience. Moi, j'ai travaillé pendant un an dans une agence qui s'appelle Grand Public, qui fait des rencontres au niveau local, démocratiques, participatives. Et là, vous avez des gens très, très différents. C'est d'ailleurs leur talent d'aller chercher des gens très différents qui sont très heureux de se constater qu'ils sont différents, mais qu'ils ont un objet commun, l'avenir de leur ville, et qu'ils arrivent à se mettre d'accord malgré ces différences. Et de fait, quand on regarde vraiment attentivement les enquêtes, on voit qu'il y a une aspiration colossale. Ce que souligne très bien d'ailleurs un think tank qu'on cite beaucoup dans le livre qui s'appelle Destin commun, à retrouver de la cohésion, à retrouver un destin commun, c'est un peu l'origine de leur nom, et à dépasser nos divisions. En fait, un sentiment très très fort et très très palpable dans les enquêtes, c'est d'arriver à dépasser ce qui nous divise. Donc on ne peut pas négliger cet aspect-là. On peut constater des fractures, mais en regardant les comparaisons internationales, on constatera qu'on n'en a pas plus qu'en Allemagne, qu'aux Pays-Bas ou qu'en Italie. Mais la volonté de les résorber, elle est puissante, et c'est ce qu'on étudie à travers ce livre.
Vous dites, et c'est assez surprenant, que les Français sont en Europe le peuple qui se reconnaît le plus dans une communauté nationale.
Oui, quand on interroge les Français et qu'on fait la comparaison avec les autres pays, on voit que c'est chez nous qu'il y a le plus de répondants qui disent se sentir faire partie de la communauté nationale et pas faire partie d'une communauté qui se définirait par une identité, par exemple, uniquement concentrée sur sa religion ou sur ses goûts culturels. Et quand on regarde les enquêtes de fond qui interrogent les Français sur leur sentiment de cohésion, quand on leur demande s'ils se sentent insérés dans la société, on a des réponses qui sont massives, très élevées. Et on constate que la part des gens qui se disent pas insérés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le sentiment de faire partie de la société, c'est grosso modo 7% des Français seulement. Donc on est complètement, avec ce type d'enquête, complètement à rebours du discours sur l'archipélisation de la France, et on a une vision de la société qui est sans doute beaucoup plus conforme au réel, et qui permet aussi d'aborder les choses, je parle sur un plan politique, sans doute beaucoup plus sereinement, mais ça n'est pas fait.
Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Sur quoi est-ce que vous vous basez ? Parce que vous citez des enquêtes qui sont elles-mêmes citées par vos contradicteurs.
Par exemple, oui, mais c'est intéressant ce que vous soulevez, parce que de fait, on se rend compte qu'il y a un prisme de lecture des enquêtes qui est assez systématique et qui va consister, mais pas forcément de manière malveillante, mais peut-être par un biais de conformité, à aller toujours dire que dans ces enquêtes-là, il y a des motifs alarmants. En fait, prenons un exemple qu'on traite dans le livre. La guerre des générations, qui est une espèce de phénomène qu'on nous vend régulièrement. Quand on regarde ces enquêtes, on constate que les jeunes partagent les mêmes valeurs que leurs aînés. C'est peut-être plus vrai d'ailleurs que ça n'était dans les années 70.
Il y a moins de fractures entre générations aujourd'hui en France.
Il y a beaucoup moins de fractures qu'on ne le raconte. Et c'est ça qu'on interroge aussi, parce que systématiquement, on regarde quel est le discours public et on regarde ce que nous disent les enquêtes. Et c'est vrai qu'il y a une manie qui consiste à aller systématiquement s'inventer des motifs de panique et d'en s'emparer. C'est un peu comme ça que vous avez introduit le sujet, les plus hauts dirigeants de ce pays, dont la parole, de ce point de vue-là, reste malheureusement performative. C'est-à-dire que ça auto-entretient le sentiment que, décidément, ça ne va pas.
Nicolas Prissette, j'ai parlé des études que vous convoquez dans ce livre. Vous faites quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a un QR code à la fin du livre. On peut aller accéder directement aux sources. Au fond.
Oui, bien sûr, parce qu'on a bien conscience que ce qu'on démontre dans le livre est à rebours de l'ambiance générale.
Totalement.
Vraiment, mais on le démontre. Et on a des sources pour ça. Et les sources, elles sont en accès libre sur une page du site fondamental.fr. Et chacun peut aller s'y référer et regarder ce qu'il y a clairement dans les enquêtes statistiques, dans les enquêtes d'opinion, et qui vient corroborer nos propos. Donc c'est un QR code qui est à la fin du livre, et puis j'invite toutes les lectrices et lecteurs de l'ouvrage à s'y référer. Mais ce qu'on a fait aussi dans avec cette dimension-là, c'est qu'on a bien montré qu'il y avait un écart considérable, pas seulement sur la vision de la France en général, mais sur tous les sujets qui fâchent, qu'on parle de l'islam, de l'immigration, de l'insécurité, de l'écologie, tout ce qui est supposé nous déchirer, eh bien, on montre qu'il y a un écart incroyable et assez effrayant finalement entre une représentation médiatico-politique qui est désastreuse, qui est vraiment négative, et puis le quotidien et les aspirations des Français. Alors ça ne veut pas dire que les Français n'ont pas ces sentiments. Ça veut pas dire
sur l'immigration, par exemple, 65% des Français trouvent qu'il y a trop d'étrangers en France, et c'est un chiffre qui est stable, d'accord, mais qui montre une cohérence des Français, mais pour demander à ce qu'il y ait moins d'immigration.
Oui, il y a, et de fait, cette question. Cette interrogation sur l'immigration, elle existe. Simplement, on la visite sur différents angles. D'abord, on constate qu'elle est très inégalement répandue selon de quel bord politique on se sent le plus proche. C'est une priorité pour les électeurs du Rassemblement National, de LR, pas du tout pour les électeurs de gauche.
Voilà, ensuite, 65%, on est au-delà des électeurs RN et
après, il y a plusieurs manières d'aborder la question. Ouais. Finalement, ce que les gens attendent, et d'être sûr, c'est est-ce qu'on contrôle bien qui rentre chez nous, qui reste... Voilà, et donc, dans d'autres questions, on dirait plutôt l'immigration au niveau où elle est là, ça va, mais il ne faudrait pas que ça se dégrade, parce qu'il y a aussi cette espèce de discours public qui consiste à dire que l'immigration serait incontrôlable. Puis après, quand on creuse encore et qu'on pose la question de la place des gens qui travaillent aujourd'hui, qui ne sont pas en situation régulière, mais qui ont un travail, là, ça change du tout au tout. Les gens disent, ceux-là, oui, il faudrait leur permettre de travailler dans de meilleures conditions en ayant le droit au séjour, en étant régularisé.
Le discours n'est pas le même si on parle des travailleurs immigrés ou des personnes visées par des OQTF.
Tout le discours sur l'immigration, il fonctionne comme ça, par stéréotype, image qu'on a en tête. D'ailleurs, on voit qu'une partie du discours d'immigration est une forme de rejet de Français. Simplement parce qu'ils ont des origines qu'on a du mal, avec lesquelles on a du mal à cohabiter pour certains de nos compatriotes.
Gérard nous appelle de La Ciotat. Bonjour Gérard.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous, nous vous écoutons.
Eh bien, je voudrais déjà remercier M. Prissette et M. Rivière pour leur livre que j'ai acheté hier. J'ai déjà lu les trois premiers chapitres que j'ai trouvé très intéressants et très convaincants. Mais la question que je voulais poser, c'est la suivante. Pour le moment, je considère effectivement que le pays n'est absolument pas déchiré. Mais je voudrais savoir ce qu'ils pensent si effectivement, dans un an, au deuxième tour de l'élection présidentielle, on a le choix uniquement entre Mélenchon et Berdella ou Le Pen. Et là, je suis effectivement, moi, très, très inquiet.
Merci beaucoup. Merci Gérard pour cette question. Qui veut répondre ? Emmanuel Rivière.
De fait, ça, c'est un point clé, parce que là, on est sur les deux pôles extrêmes de l'espace politique, et qui concentrent d'ailleurs ce sentiment un peu de violence, d'antagonisme, notamment à travers le comportement des... Alors, c'est aujourd'hui plus, d'ailleurs, LFI qui est taxé de violence que le Rassemblement National. Mais c'est les deux partis, dans une enquête qu'Ipsos a publiée hier, qui sont les plus associés à un phénomène de violence. Et là, vraiment, on a quelque chose sous nos yeux qui semble évident. C'est-à-dire que la politique française n'a jamais paru aussi violente et elle n'a jamais été autant rejetée. On pourrait peut-être faire le lien entre les deux. Et le lien, il est très établi. Les gens rejettent la violence. Donc, de fait, la question de Gérard est importante. C'est quels sont les phénomènes qui favorisent qu'un scénario qui opposerait les deux pôles, qui sont considérés comme les plus antagonistes, pourrait se produire dans un pays qui aspire, et c'est ce que nous ont dit d'ailleurs sans cesse depuis 2024 les Français quand ils ont été interrogés, qui aspire à ce qu'on fasse des compromis et qu'on trouve à s'entendre.
Mais quand on regarde le tableau de l'Assemblée nationale, je prolonge la réflexion de Gérard, là on a l'image d'une France on ne peut plus divisée, voire même ingouvernable, dans laquelle on n'arrive pas à faire voter de budget. Elle est là la France divisée, non ?
Elle est là la classe politique divisée, mais pas la France divisée. Parce que
c'est le résultat du vote des Français d'il y a deux ans.
Non, mais bien sûr, c'est le résultat d'un vote et c'est le résultat des comportements individuels ou collectifs des partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Mais ils ne sont pas à l'image de la société. Il y a vraiment un grand écart entre la vie politique telle qu'on la voit depuis plusieurs années et qui s'est polarisée et qui s'est enfermée dans des obsessions et des schémas qu'on démontre dans le livre. Et il y a un grand écart entre ce monde politique et les Françaises et les Français qui ne vivent pas les choses de cette façon-là.
Mais un pays uni pourrait envoyer comme premier groupe à l'Assemblée nationale le Rassemblement national et comme premier groupe de gauche la France insoumise, la question... avec des positions aussi antagonistes.
Non, mais il faut voir. Alors, on peut répondre plusieurs choses à ça. D'abord, il faut voir, Emmanuel l'a évoqué, le fait que les représentants de ces deux partis sont aujourd'hui peut-être dans des situations politiques favorables, enfin surtout le Rassemblement national, beaucoup moins LFI, il n'en reste pas moins que les personnalités sont des personnalités qui ont plus de taux de rejet que de taux d'adhésion. Il faut le souligner, ça. Ce ne sont pas des personnalités qui suscitent des adhésions massives, loin de là. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on a bien une question d'offre et de comportement politique. Et les Français, ils font avec ce qu'on leur propose. Et si on a cet écart entre ces propositions politiques qu'on peut juger très insatisfaisantes, c'est peut-être aussi parce que le politique, singulièrement les partis les plus modérés, ont aussi un travail à faire de réappropriation du réel, d'une part, et d'autre part, de propositions qui soient des propositions plus concrètes, plus effectives et plus adaptées à la réalité des Français. On ne rentre pas dans ce type de détails dans le livre, mais c'est quand même ce à quoi on aboutit.
Il nous reste quelques minutes, je voudrais qu'on parle de l'école. On constate quand même un phénomène à l'école qui est documenté, c'est celui de l'évitement entre classes sociales, le privé qui coûte de l'argent pour des classes plus favorisées, le public qui est gratuit et qui aboutit à des mélanges qui sont moindres qu'il y a quelques années. Qu'est-ce qu'on fait de ça, Emmanuel Rivière.
De fait, l'école, c'est effectivement un bon exemple auquel on consacre un chapitre du bouquin. Et ce phénomène que vous décrivez, hein, de l'évitement, il est encouragé par différentes choses qui sont interrogées par les Français. Le fait de percevoir l'école comme un système qui est en fait un système de compétition, dans lequel il faut donner le plus de chances possible à ses enfants pour qu'ils gagnent cette compétition. Et matinée...
Il n'y avait pas plus de mixité à l'école il y a quelques années ?
Il y en avait certainement plus en région parisienne, par exemple, hein, parce qu'il ne faut pas non plus généraliser Paris à toute la France. Ce à quoi on assiste beaucoup, il y a un excellent sociologue qui a analysé ça il y a quelques années qui s'appelle Éric Morin, c'est la congruence entre finalement la réputation des écoles, le prix des logements et les stratégies d'évitement dans certaines zones, mais ce n'est pas encore une fois toute la France. Mais à cela s'ajoute qu'à force et de charger l'école de tous les maux, y compris d'ailleurs de tous les maux de la société, on contribue à cette interrogation sur l'école. Et là encore, comme le disait Nicolas, mal poser les problèmes aboutit rarement à ce qu'on trouve bonnes solutions. Et sur l'école, cette espèce de réponse générale, l'uniforme à l'école expérimenté, on ne sait pas très bien comment d'ailleurs, remettre les valeurs, etc. Répond sans doute mal au fait qu'il y a certaines zones où il faudrait trouver des solutions. Et d'ailleurs, dans le mandat, les deux mandats d'Emmanuel Macron, une des solutions qui a le mieux fonctionné était une solution à vocation locale, hein, c'est le dédoublement des classes de CPCE1 dans certaines zones où ça le méritait, qui a été d'ailleurs assez bien souligné et apprécié par les Français.
Nous voulions faire vivre le débat, aujourd'hui c'est chose faite. Allez plus loin avec ce livre, La guerre civile n'aura pas lieu. Merci à tous les deux, Nicolas Prissette et Emmanuel Rivière, d'être passés par le 13-14 aujourd'hui, 13h46 sur Inter. Une semaine dans leur vie. Notre feuilleton depuis hier, nous suivons Luca Vio, 18 ans, et sa passion particulière, c'est vrai, puisqu'il élève des poules, pas n'importe lesquelles, des poules Pékin, une passion qui a surpris sa maman, Émilie. On les retrouve aujourd'hui, deuxième épisode, dans leur centre équestre près d'Angers.
Alors, les poules, c'est arrivé un peu par hasard. J'ai une amie qui déménageait sur Paris, qui avait deux poules chez elle, qui ne savait pas quoi en faire. Et elle est arrivée avec ces deux poules qu'elle m'a offertes. Et Luca s'est lié de ses deux poules. Et puis, au fur et à mesure, après, il a regardé sur le bon coin. Il en a trouvé avec des races un peu différentes. Et puis, progressivement, il est venu à cette race-là qui est la Bantam de Pékin, qui développe un maximum maintenant. Alors, moi, je m'appelle Émilie Vio, j'ai 48 ans. On tient cette structure équestre avec mon mari depuis 2011. Et puis au milieu de tout ça, on a eu deux garçons. Je pense que la passion, elle vient aussi un peu de nous. Il était tout petit, je sais pas, il devait avoir à peine 8-10 ans, au moment où il y a eu cette histoire de poule qui est arrivée. Et puis bon, après, on avait fait, au début, comme tout le monde, ils avaient une petite caisse avec, ils se promenaient partout dans le club. Et puis un jour, malheureusement, on a un renard qui est venu dans le club, qui a mangé toutes les poules de Luca. Donc là, c'était la catastrophe. Donc, on nous a conseillé de faire des petits parcs. Et puis, on a eu un enclos, et puis deux enclos, et puis trois enclos, et puis quatre enclos. Et maintenant, on doit être à huit enclos. Donc, ça se développe. Et puis, bah, avec ses sélections, enfin, voilà, maintenant, il fait son truc à lui. Alors, des fois, j'avoue, je suis un petit peu larguée sur le sujet parce que ça prend vraiment maintenant une tournure assez... ça devient un peu professionnel, on va dire. Hein. On a été un peu surpris sur l'idée. Mais bon, après, moi, je trouve ça génial. Enfin, moi, j'aime qu'il ait des passions comme ça au lieu de te river à la télé ou sur le téléphone. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même plus instructif. Et puis, il fait des compétitions régionales, championnat de France. Il côtoie plein de gens qui sont passionnés comme lui. Donc, je trouve ça chouette.
Elles sont assez discrètes, là. D'habitude, elles...
Au début, bah, j'ai été à ma toute première exposition qui était à Limoges. Et donc, en exposition, il y a tout type de races, il y a vraiment de tout. Et puis, quand je suis arrivé dans la rangée des Pékins, j'ai tout de suite accroché sur cette race-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Du coup, j'ai acheté mes premiers vrais sujets là-bas, que j'ai fait reproduire. Et c'est vraiment de là que j'ai commencé, quoi. Je regardais sur tout ce qui était les sites internet, donc Le Bon Coin, tout ça. Et puis, à ce moment-là, j'ai acheté plein de poules différentes pour le plaisir, pour le jardin, quoi. Si c'est des bonnes poules d'exposition, tout ça, ça peut quand même un peu monter niveau prix. Quoi. Mais ça peut être entre 20 et 60 euros, par exemple, une Pékin.
Après, nous, on a déjà une cinquantaine de chevaux. On a une vingtaine d'hectares au total. Bon, voilà, on s'est dit, si c'est sa passion, on va lui donner un coup de main et puis on va lui libérer un petit peu de place. Alors, c'est sûr que... Bon, il gravite un peu le terrain des chevaux. S'il pouvait en avoir un peu plus, il le ferait. Mais, et c'est vrai que nous, par chez nous, le terrain est compliqué à obtenir. Donc, on est un petit peu limité au niveau de l'espace. Mais c'est sûr que si on pouvait récupérer un peu de terrain pour qu'il puisse développer son activité, on le ferait. Mais ça, c'est un petit peu... C'est une autre histoire. On ne veut pas de la surpopulation non plus. Alors, des fois, on lui dit, bah, tranquille, hein, on calme un peu le jeu, là, parce que...
Cohabitation. Poules et chevaux qui se passent plutôt bien. Feuilleton signé Sarah Mansoura. Réalisation Antoine Larcher.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le mardi, 13h51. Cyril Petit du journal Ouest France est là pour nous raconter ces petites histoires qui en disent long. Et aujourd'hui, Cyril, petites histoires de garde champêtre.
Et je vous emmène, Jérôme, à Saint-Viaud, l'une des très rares communes de Loire-Atlantique à disposer d'un policier rural, plus connu sous le nom de garde champêtre, relate Ouest France. Roch Chéreau, le maire de la petite ville de 3000 habitants, m'a expliqué. Après le confinement, on a vu augmenter les incivilités comme les dépôts sauvages de déchets. On a pensé à un garde champêtre parce que même s'il a un pouvoir de répression et que l'uniforme fait toujours effet, on voulait surtout de la prévention, de l'accompagnement et puis disposer d'une personne présente au quotidien plutôt que d'un policier municipal partagé au sein de l'intercommunalité. Alors, deux ans après, le maire indique que les retours de la population sont bons sur l'intérêt de ce poste qui coûte environ 40 000 euros à l'année.
Et quelles sont les missions de ces gardes champêtres ?
Le garde champêtre est donc un agent de police rurale employé par une commune et placé sous l'autorité du maire. Il veille au respect des lois et arrêtés dans les campagnes, protection de l'environnement, contrôle de la chasse et de la pêche, surveillance des chemins, des cultures et des espaces naturels. Assermenté, il peut constater des infractions et dresser des procès-verbaux, notamment pour des dépôts sauvages, des atteintes à la nature ou des troubles à l'ordre public. Alors, dans le journal Charente Libre, David, le garde champêtre de Touvres, 1150 habitants, résume « Je suis les yeux et les oreilles du maire ». Parmi ses activités concrètes, assurer la sécurité à la sortie des écoles, faire respecter le règlement à l'aire de service de camping-car, rassurer une retraitée inquiète de voir des personnes rôder près de chez elle, s'assurer du respect des règles d'urbanisme dans le cadre des permis de construire ou encore gérer les concessions du cimetière.
À tel point, Cyril, qu'un texte de loi concernant les gardes champêtres est en discussion.
Voté par le Sénat le 10 février, ce texte qui concerne aussi les policiers municipaux prévoit d'élargir les prérogatives des gardes champêtres. S'il était définitivement adopté, il pourrait par exemple procéder à des fouilles de sacs, mais aussi utiliser des drones ou des caméras piétons.
Est-ce qu'on sait combien il y en a en France ?
Environ 600 selon le Conseil d'État. Sur 30 000 communes rurales, c'est peu et leur nombre a diminué de 40% en 10 ans. Surtout, on est loin de l'âge d'or des années 1960 où ils se comptaient par milliers et jusqu'en 1958, il était même obligatoire d'en avoir un par commune. Le métier remonte au Moyen-Âge. Le garde champêtre surveillait alors les récoltes et traquait les braconniers. Mais on sent un regain d'intérêt et de nombreux candidats aux élections municipales proposent de recruter un garde champêtre. Beaucoup de maires potentiels sont venus nous voir pour qu'on leur explique comment ça marche, confirme celui de Saint-Viaud. À Nailly, 1300 habitants dans l'Yonne, le seul candidat en lice a justifié son projet sur la radio ici au Serre. Nous sommes encore actifs, donc il nous fallait trouver une solution pour pouvoir nous remonter des informations au sein de la population.
Bon, et puis ça rappelle aussi des souvenirs, Cyril.
Oui, Jérôme, sur ici, une habitante de Nailly se souvient d'avant 1958, je la cite. « Vous auriez vu quand il tambourinait, c'était un événement. Tout le monde se précipitait, avis à la population. Et ils nous disaient, quand ils allaient relever les compteurs d'électricité ou « Monsieur un tel est décédé », dès qu'il se passait quelque chose, on avait les nouvelles. »
Petites histoires de garde champêtre avec Cyril Petit du journal Ouest France. Merci Cyril. De traîner la France à « C'est une chanson », votre invité. Aujourd'hui, Julien est l'un des plus grands stylistes et couturiers français.
Jean-Charles de Castelbajac, qui est à l'honneur dans une exposition au musée des abattoirs à Toulouse et qui parraine ce week-end au théâtre de Chaillot à Paris, un grand événement qui fait le pont entre la danse et la mode. Il m'a reçu dans son atelier plein de dessins et de couleurs au son de la chanson qu'il a choisie, The Model du groupe allemand Kraftwerk.
J'ai choisi une chanson qui évoque à la fois ma carrière, mon amour pour la musique, pour la découverte et aussi quelque chose de très fédérateur. J'ai choisi The Model.
1, 2, 3, 4.
J'ai rencontré la musique de Kraftwerk bien avant, avec un album qui s'appelait Autobahn, que j'avais mis dans un de mes défilés pour une marque italienne, ils s'appelaient Max Mara, et c'était vraiment une révolution, cette arrivée vers une musique conceptuelle, qui était aussi une forme d'évasion dans un monde inconnu, en fait, le monde de la technologie qui nous entoure aujourd'hui. Là, c'est un album extraordinaire qui s'appelle Man Machine, qui parle de la rencontre entre l'homme et la machine. Et à l'intérieur, il y a des chansons impérissables et extraordinaires. Celle-ci, elle est vraiment l'essence même de ma démarche, en fait, qui a toujours été celle de la curiosité, de découvrir, d'être un aimant de l'air du temps. Et à la fois, elle a ce rythme froid et déterminé qui fait penser à la démarche des mannequins sur les podiums, mais aussi à une société qui se robotise et qui devient un petit peu sous le joug de la machine en quelque sorte.
Cette chanson est portée par la voix de Ralf Hütter, c'est le seul membre fondateur du groupe à en faire encore partie.
Et ce groupe Kraftwerk a marqué Jean-Charles de Castelbajac tout au long de sa vie et de sa carrière.
Elle est sortie, je crois, en 78. Donc, c'est une chanson qui a plus d'un demi-siècle. Et elle reste ultra moderne et ultra progressiste, en fait.
Et vous, quand vous l'écoutez, cette chanson, elle vous ramène en 78 ou elle vous évoque encore des choses actuelles?
Moi, elle me propulse encore. Hein. Vous savez, c'est comme les couleurs primaires. Quand je regarde le rouge, le bleu, le jaune, j'ai envie de me lever. Et lorsque j'entends The Model, j'ai envie de prendre la route. Je me souviens, moi, des premiers concerts à l'Olympia. J'ai voulu les rencontrer. J'avais une soif de d'écouter leur musique de près, de les voir sur scène. Et finalement, j'ai fait une collaboration avec eux autour du Tour de France. Et je dois dire que c'est mes artistes favoris.
À quoi ça ressemble l'expérience d'un concert de Kraftwerk pour vous à ce moment-là?
Je me souviens de ces espèces de boîtes qui n'étaient pas des cercueils, mais dans laquelle leur robot était posé de concert en concert. Et à certains moments, on se posait la question, sont-ils sur scène ou est-ce leur représentation? Et puis soudain, les choses s'animaient, on les voyait bouger, mais c'était pas Jimmy Page avec sa guitare, ils avaient des petits computers à la main. Et c'était tout à fait étonnant, bouleversant de voir cette dimension à la fois ludique, à la fois progressiste et tout à fait inquiétante. C'est ce qui me trouble, c'est ce qui m'emporte. Et c'est ce qui fait que la musique a toujours été mon moteur d'éternité, en quelque sorte.
Je suis rentré
rentrer dans votre bureau, il y avait de la musique sur ce petit balloon dog qui sert de, d'enceinte. Vous travaillez en musique ou vous avez besoin de silence ou ça importe peu pour vous?
Je travaille en musique. Je travaille en musique, je cours en musique, je vis en musique. Je suis toujours en quête de curiosité, en fait. Hein. Qu'elle vienne de la nuit des temps et que ça soit une première chanson sumérienne, des ballades du Moyen-Âge, ou des, j'allais dire des bidouillages, mais le terme n'est pas très joli, mais j'aime bien, de synthétiseurs dans une cave.
The Model, Kraftwerk, c'était le choix de Jean-Charles de Castelbajac.
Et son expo L'Imagination au pouvoir, c'est le titre, est au musée des Abattoirs à Toulouse jusqu'à fin août. Et ce week-end, Chaillot Mode d'expérience à Paris, pour lequel il a préparé une irruption chromatique, je cite.
Merci Julien Baldacchino, je vous dis à jeudi, puisque demain ce 13-14 sera en direct du théâtre de Saint-Dizier en Haute-Marne pour parler élections municipales. Vous êtes bien évidemment les bienvenus, ce sera en direct, en public, dans la limite des places disponibles. Vous connaissez l'expression. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
Quel est le programme aujourd'hui?
On va parler seconde main avec mon invité.
Dans la Terre au carré, à tout de suite.